Partez à la découverte des territoires et de ceux qui les dynamisent avec Parlons Territoire, une émission d'Arkéa Banque Entreprises et Institutionnelles sur Radio Immo.
Bonjour à toutes et à tous et merci d'être avec nous. Eh bien voilà, on vous souhaite une très très belle année. Il est encore temps de vous la souhaiter en espérant qu'elle soit apaisée, harmonieuse et inclusive. C'est l'objectif d'ailleurs de Parlons Territoire. Nous reprenons notre road trip avec nos amis d'Arkéa pour aller au plus près du terrain, au contact des territoires. Bien évidemment, c'est Parlons Territoire et c'est la première, bien sûr accompagnée pour ce Tour de France, de Aurélien Deleu. Bonjour Aurélien. Directeur immobilier pour Arkéa Banque et Institutionnelle. Merci d'être avec nous. Aurélien, c'est une vraie volonté de ce Tour de France d'aller au contact du territoire.
Exactement. On entame là cette nouvelle année, la quatrième ville de notre Tour de France. Après avoir fait Lyon, on a fait Rennes, Bordeaux, et puis on pose aujourd'hui nos valises à Toulouse. Donc on est ravis d'être dans la ville rose aujourd'hui.
Au programme aujourd'hui, nous allons rencontrer les professionnels, ceux qui bâtissent la ville au quotidien, au plus proche finalement des territoires, pour vous donner également les clés de compréhension et aussi, d'ailleurs, sans détour, de parler de ce qui va et aussi de ce qui ne va pas, d'avoir résolument finalement une attitude aussi positive, bien évidemment, face à une adversité qui est quand même assez complexe. Et d'ailleurs, on a choisi, vous avez choisi également, Aurélien, de choisir des personnes qui ont vraiment une vision singulière du territoire. Au programme, c'est trois interviews des thématiques. On va essayer de balayer l'ensemble des sujets. On vous laissera la possibilité, bien évidemment, à vous toutes et à vous tous, de réagir. Mais comme c'est d'usage, mon cher Aurélien, vous nous avez préparé un édito. C'est parti.
Bon, bonjour à toutes et à tous. Bienvenue ici à Toulouse pour l'émission d'Arkéa Banque que l'on fait avec Radio Immo. Parlons territoire. Alors cette émission, vous dire quelques mots, la façon dont on a souhaité la construire. On l'a construit autour de trois grandes thématiques. La première thématique, des thématiques d'ailleurs qui sont chères hein, pour nous, groupe Crédit Mutuel Arkéa. La première thématique, ce sont les territoires. On est une banque un peu particulière hein, puisqu'on a nos centres de décision, notre siège en territoire. Bretagne, hein, le siège du groupe est basé à Brest. Et il est important pour nous, on a 21 centres d'affaires implantés partout en France, sur toutes les parties de la France, d'être présent à vos côtés et d'aller rencontrer les dirigeants pour prendre le pouls des territoires, parler des problématiques et puis, on va dire, essayer de trouver aussi des solutions. Donc ça, c'est le premier sujet. La deuxième thématique, évidemment, c'est l'immobilier. Nous sommes, le groupe Crédit Mutuel Arkéa, très présent sur l'immobilier. Nous avons constitué une filière. Arkéa Banque accompagne tous les acteurs de cette chaîne de l'immobilier, des collectivités locales jusqu'à l'investisseur institutionnel en passant par les aménageurs, en passant par les promoteurs, par les bailleurs. Donc nous accompagnons les opérations sur les territoires à différents stades de maturité. Nous ne faisons pas d'ailleurs que financer, hein, nous essayons aussi d'être un peu différents des autres banquiers de la place, hein, en essayant aussi d'animer, d'apporter des paroles, de faire intervenir nos clients pour mettre en lumière, on va dire, les problématiques des territoires, mettre en avant également les innovations, on le verra tout à l'heure. Chaque année, d'ailleurs, on organise un petit événement qui s'appelle le Speed Dating de l'immobilier, qui réunit à peu près 250 élus dirigeants à Paris. Et on trouvait intéressant, en tout cas, c'était une demande des équipes et de nos clients de pouvoir délocaliser ces événements en plus petit format ici, dans les grandes villes françaises. Alors, on est dans une période qui n'est pas simple, hein, vous l'avez dit, mon cher Sylvain, mais on est en pleine crise hein, de l'immobilier, une crise qui est dure, qui impacte toute la filière. Donc on souhaite aussi jouer, nous, notre rôle de banquier et d'accompagner nos clients dans cette période qui est tendue sur l'immobilier. On a aujourd'hui, on accompagne les promoteurs, on a 900 opérations de promotion en cours de financement sur tout le territoire et on essaie de continuer à être présent pour financer justement de nouvelles opérations parce que le secteur du logement est compliqué. On en parlera tout à l'heure, hein, notamment avec les chiffres de l'AFPI, mais on va vivre une année noire 2024 avec, on va dire, moins de 90 000 logements qui vont être construits neufs sur le territoire. Les besoins sont importants. Il est important, de jouer notre rôle de banquier pour lancer ces nouvelles opérations et d'accompagner nos clients. On est dans une semaine en plus très importante pour le groupe Crédit Mutuel Arkéa, puisque vous avez dû le voir la semaine dernière, nous avons lancé notre nouveau plan stratégique, le plan stratégique qui s'appelle FAIRE 2030. Et on s'inscrit clairement dans une banque, on va dire, de faiseurs, c'est-à-dire d'essayer d'être présent et de porter des projets concrets sur les différents territoires. Alors, le dernier thème qui nous est également cher est le thème de l'innovation. Et bon, on est sur une terre, on va dire, d'innovation ici à Toulouse, avec la recherche et développement qui est importante dans les industries aéronautiques, aérospatiales. Et nous allons essayer, on est persuadé que c'est également par l'innovation qu'on arrivera à sortir de l'ornière de l'immobilier. Et vous verrez que dans cette émission, nous allons voir comment on peut construire mieux, on peut construire de façon plus durable et plus vite pour répondre aux enjeux. Pour finir, Toulouse est une ville passionnante, une ville dont l'histoire remonte à l'Antiquité, la ville rose, ville qui s'est développée notamment au 19e grâce au chemin de fer, les moyens de transport, et qui est extrêmement attractive. Alors, il y avait un article hier dans Les Échos qui était passionnant, je vous invite à le lire. Une page entière sur l'attractivité du territoire. L'agglomération de Toulouse attire 15 000 nouveaux habitants par an. La ville de Toulouse, 6 000 nouveaux habitants, à tel point que la ville de Toulouse, alors c'est pas encore officiel, mais dans les faits, est passée devant la ville de Lyon au nombre d'habitants. Donc, on est sur un territoire qui est extrêmement attractif. Mais qui dit attractif, il faut savoir les loger, ces nouveaux habitants. Aujourd'hui, c'est vrai qu'on voit bien que lancer des nouvelles opérations de logement, c'est extrêmement compliqué. On va essayer également d'y répondre, de savoir comment on fait pour loger ces nouvelles populations de façon le mieux possible sur ce territoire. Enfin, vous voyez, on a énormément de choses dont on souhaite débattre aujourd'hui. Et je vous propose de lancer la première séquence.
De retour ici à Toulouse pour Parlons Territoire avec nos amis d'Arkéa. Nous lançons le kick-off, comme on dit maintenant, très à la mode. C'est le lancement de notre tournée 2025. Bonjour Raphaël Catonnet, merci d'être avec nous. Vous êtes directeur général du groupe Opidea Europalia. J'aimerais qu'on vous connaisse un peu plus, si vous voulez bien. Quel est le rôle d'Opidea, justement, et de ses liens, notamment avec les collectivités du territoire ?
Bonjour, merci d'avoir choisi Toulouse pour cette première étape de votre Tour de France 2025. Alors, le groupe Opidea Europolia, c'est en fait deux entreprises publiques locales dont Toulouse Métropole est actionnaire majoritaire. Nous pratiquons quatre métiers qui sont les suivants. Le métier d'aménageur, des études amont sur l'ensemble des opérations d'aménagement ou de régénération urbaine jusqu'à la livraison des nouveaux quartiers ou des transformations. Le deuxième métier, c'est un métier de constructeur. Nous réalisons en qualité de maître d'ouvrage délégué ou d'AMO le pilotage de plusieurs grandes opérations d'investissement. Par exemple, le grand parc des expositions qui était construit, c'était sous maîtrise d'ouvrage Europolia, ou plus simplement des écoles pour les collectivités locales. Troisième métier, c'est un métier de promoteur. Alors, il est très marginal, mais c'est un métier important pour nous parce qu'il nous permet finalement de passer aussi de l'autre côté du miroir, c'est-à-dire de voir ce que ça représente, la prise de risque pour les opérateurs immobiliers auxquels nous vendons des terrains et des charges foncières. Ça nous permet de mieux comprendre les mécanismes. Ça a été une belle acculturation pour les équipes et je suis très content que le conseil d'administration ait accepté il y a maintenant 5 ans. De pratiquer cette activité. Ça reste très marginal. C'est une opération par an en copromotion dans laquelle on prend 30% du tour de table. Vous voyez, sur une opération de 50 à 80 logements, c'est 30%, ça représente une goutte d'eau, mais beaucoup de savoir-faire et un peu de résultats aussi, puisque nos opérations, elles doivent être rentables. On ne joue pas avec l'argent public pour le perdre.
Vous êtes comptable des deniers publics. J'aime bien entendre.
Quatrième métier, on est investisseur aussi sur des rez-de-chaussée commerciaux. Donc ça, c'est une activité importante puisqu'elle permet d'être là où l'initiative
vous investissez
privée
dans les fonds de commerce ou dans les murs.
Dans les murs de commerce. Que
vous gérez ensuite en exploitation
que nous louons ensuite. Oui. Pour soutenir en fait la présence de services et d'aménités dans les quartiers. Alors aujourd'hui, c'est principalement dans le quartier d'Ampalo, donc une très grande opération de rénovation urbaine dans laquelle le parc de logement social qui représentait 90% de ce quartier, en fait, on va fabriquer un quartier qui devient beaucoup plus mixte avec 50% d'accession et 50% de logement social. Et donc, ce faisant, autour de la station de métro, on a implanté un centre commercial de plus de 2500 mètres carrés.
En fait, l'idée de l'investissement sur des commerces de rez-de-chaussée, c'est de vitaliser le quartier, de réinstaller des commerces de proximité, c'est bien ça ?
Oui, aujourd'hui, il est très important de soigner la qualité d'usage dans chacun des quartiers. En fait, faciliter l'accès au commerce, la proximité, cette ville du quart d'heure dont on entend parler beaucoup, ben, il faut la faire. Et pour ça, il faut poser des actes positif, c'est-à-dire fabriquer les murs qui vont pouvoir accueillir ces activités, accompagner souvent les commerçants qui viennent s'installer au début et puis progressivement, finalement, mettre dans la dynamique du marché l'ensemble de ce patrimoine.
Alors justement, qu'on comprenne bien, quelle est la stratégie immobilière que vous avez mis en place avec la métropole, notamment sur l'urbanisme, le logement, et en particulier, où est-ce qu'on en est sur le PLUIH aujourd'hui, si on devait faire un point à date ?
Alors, effectivement, la dynamique immobilière, en tout cas la partie réglementaire, est encadrée par le document d'urbanisme, le PLUIH. Ce PLUIH porte des ambitions importantes. Le dynamisme démographique et économique de la métropole est extrêmement important. Vous l'avez souligné, on est dans la grande métropole de France qui croît le plus. Elle croît par la création d'emplois, plus 5000 emplois par an, et ça c'est constant à part l'épisode Covid bien sûr, mais un rebond assez spectaculaire après le Covid. Et puis cette croissance démographique qui ne se dément pas, une croissance qui est liée avec un moteur endogène, puisque à plus de 60% c'est le solde naturel et 40% le solde migratoire. Donc il y a bien l'enjeu de loger les Toulousains, ceux qui sont déjà là, les enfants de ceux qui sont déjà présents. Alors pour ce faire, le PLUIH nouveau est en cours, il a été arrêté au mois de juin dernier pour entrer dans la phase d'enquête publique qui se déroule actuellement. Le but est de approuver le PLUIH avant la fin de l'année 2025 et donc de partir sur cette nouvelle base. Donc ce PLUIH, il est évidemment conforme aux prescriptions de la loi zéro artificialisation nette, avec une démarche qui a été très volontariste de la part de la métropole sur la maîtrise de la consommation des espaces naturels, agricoles et forestiers, en rendant une copie qui est une consommation légèrement inférieure aux 50% qui sont autorisés. C'est une révolution dans le territoire, puisque ici, il n'y avait pas d'obstacle topographique. La surface de la ville de Toulouse, c'est 4 fois la surface de Paris. Enfin, c'est la surface de Paris, pardon, mais une population 4 fois inférieure. Donc, on est plutôt habitué à des formes urbaines on va dire basse. Donc c'est un vrai changement de paradigme qu'il faut conduire, qu'on conduit à travers nos opérations d'aménagement aussi, puisqu'on a procédé à des réductions de périmètre, des changements de
programmation. Ça veut dire qu'on va aller vers plus de verticalité ?
Oui, clairement, plus de verticalité, mais aussi plus de nature en ville, puisqu'en fait, on gère les équilibres pour... La course au mètre carré n'est pas l'objectif. La course, c'est la course à la qualité de vie et pouvoir donner à l'ensemble des habitants l'accès aux services, l'accès aux transports en commun, donc donner de la mobilité, essayer d'intensifier la ville là où c'est raisonnable de pouvoir le faire, près des infrastructures de transport en commun. Donc il y a ce chantier important de la troisième ligne de métro, hein, qui est un investissement considérable qui est porté par la métropole et le syndicat de transport, qui sera livré en 2028. Au terme de la livraison de cette troisième ligne de métro, c'est plus de 60% de la population qui sera directement desservie à moins de 300 mètres et 70% des emplois. Donc on aura une mobilité décarbonée, directement accessible. On peut observer aussi une évolution très importante des choix modaux. Le vélo, c'est une vraie révolution à Toulouse. Cette ville était qualifiée en retard il y a quelques années. Aujourd'hui, c'est plus de 35 millions d'euros qui sont investis. D'ailleurs, on a le plaisir de pouvoir conduire ces investissements, une partie de ces investissements pour le compte de la métropole, en mettant en place ce réseau express vélo qui va vraiment être une toile d'araignée qui permet de circuler de façon décarbonée dans toute la métropole.
Aurélien Deleu.
J'aimerais qu'on revienne justement sur la partie logement. Et notamment, quels sont les objectifs qui sont donnés dans le cadre du nouveau justement PLUIH et comment on résout cette équation ? Parce que vous attirez énormément de population. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, quand on regarde le nombre d'autorisations et de lancements de nouveaux permis de construire, c'est vrai que c'est en deçà, en tout cas, de cet objectif. Comment vous voyez les choses là, sur les prochaines années ?
Alors, vous avez donné les chiffres tout à l'heure à l'échelle de l'agglomération. La métropole, c'est un périmètre aujourd'hui de 800 000 habitants. Sur ces 800 000 habitants, il faut pouvoir accueillir donc 12 000 logements par an, 12 000 habitants par an. C'est la production de 7 400 logements par an qui est programmée dans le cadre du PLUH. Donc, ce PLUH, il est... On travaille par séquence de 10 ans, donc c'est un volume global de 74 000 logements qui est imaginé dans ce PLUH. Il y a un souhait très important de mixité. L'enjeu, c'est de fabriquer du logement qui soit accessible à toutes les populations. Le choix politique, c'est d'avoir 35% de logement social, qui est un pourcentage très significatif, dont une part de PLAI à hauteur de 60%. Et puis enfin, une part de logement abordable, 25%. Donc vous voyez qu'on a 60% finalement du flux de production qui est maîtrisé en termes de prix et qui s'adresse, qui ouvre le spectre de l'offre de logement à toute la population.
Alors le nerf de la guerre, on le sait, hein, c'est le foncier. Composante essentielle, les promoteurs ici présents, parce qu'il y a quand même quelques promoteurs dans la salle, on sape quelque chose, des promoteurs qui ont été très lourdement mis à l'épreuve. J'ai eu l'occasion à plusieurs reprises d'interviewer le maire de Toulouse, Jean-Luc Moudenc, dont on peut dire qu'il est maire bâtisseur. On peut le dire. Et c'est pas un gros mot que de dire maire bâtisseur au sens noble du terme. C'est la mission de loger ses concitoyens, bien évidemment. On l'a vu, c'est une composante non seulement importante, mais qui va devenir de plus en plus rare, avec effectivement cette inflation normative que l'on voit poindre un peu partout, notamment avec le fameux ZAN, hein, pas le bonbon, hein, le zéro artificialisation nette, qui va continuer à augmenter. Et surtout, la bonne nouvelle, et Jean-Luc Moudenc qui a beaucoup lutté pour, c'est l'avenue de la LGV, la fameuse ligne à grande vitesse. Enfin, ça va venir, je crois que c'est 2030 ou 2032. Hein, il me semble, qui d'ailleurs va mettre Toulouse à une encablure de Paris, également les villes alentours qui vont en bénéficier. Je parle d'Agen, mais je parle aussi de Montauban, par exemple, qui va être la grande gagnante de cet équilibre-là. Arrivée de la LGV, transition écologique, voilà, une espèce de nécessité quasi impérieuse dans l'urbanité de réinviter, vous l'avez dit tout à l'heure, la nature en ville, d'aller vers plus de verticalité. Moi, j'ai envie de vous poser une question, à vous, l'aménageur que vous êtes également, avec les structures publiques qui font votre gouvernance. Et donc, du coup, quand on prend ces éléments-là, on a l'impression, mais très franchement, on a l'impression parfois d'avoir des injonctions dites un peu contradictoires. Ça ne va pas être simple de mener cette mission. Quel est votre point de vue sur cette question ?
Le foncier, c'est important, et le foncier pas cher, c'est encore mieux. Hein, puisque le but, effectivement, c'est de produire, mais c'est de produire en maîtrisant les prix. Donc, on a fait plusieurs fois l'exercice avec nos partenaires promoteurs pour finalement dérouler un petit peu le bilan promotion et de voir tous les postes qui pouvaient être étudiés. Donc là, on va se concentrer un peu sur le foncier. Oui, il y a une part à observer sur le foncier.
Donc, il y a encore des marges de manœuvre, hein, c'est ça que ça
oui,
veut dire.
Enfin, on cherche forcément, c'est-à-dire que soit dans les coûts de maîtrise du foncier, c'est-à-dire qu'il faut pouvoir éviter la spéculation foncière dans les zones futures de projet. Donc ça passe par une politique foncière en amont. C'est ce que conduit la collectivité aujourd'hui autour des futures stations de métro, en lien avec l'établissement public foncier local, donc qui est un opérateur important.
Et vous arrivez à endiguer justement
dans quelle la métropole est actionnaire. Alors là, aujourd'hui, elle baisse, la spéculation foncière. Mais comme le disent tous les analystes et les auteurs, il y a toujours un effet de cliquet. Le foncier met beaucoup de temps à redescendre. Ça monte. Et donc aujourd'hui, ce qui compte, c'est de pouvoir embarquer sur du portage long terme, par exemple, des terrains dont on imagine que la mutation s'opérera plus tard. Quand je dis terrain, en vérité, c'est un petit peu impropre, puisque aujourd'hui, il va s'agir plutôt de transformer la ville sur elle-même.
De zones
donc on a accès, oui, en fait, à des fonciers qui sont plus chers, qui ont déjà une valeur d'usage, qui sont occupés, qui parfois portent les stigmates de différentes occupations. Je veux dire par là, il faut opérer de la dépollution, il faut opérer certaines démolitions, totales ou partielles. Et aujourd'hui, on essaie de considérer beaucoup le déjà là pour des questions aussi d'empreinte carbone. Donc à chaque fois, on a un travail d'observation qui est important sur chacune des transactions qui sont proposées dans les secteurs dits un peu chauds. Et l'intervention, elle peut se mener aussi pour réguler les coûts. C'est-à-dire que si on observe des transactions qui sont anormalement hautes, c'est important sur du temps long de pouvoir préempter, et de discuter le prix et d'essayer de maintenir le prix. C'est l'intérêt de tout le monde.
Oui, vous faites jouer l'arsenal qui vous permet d'endiguer effectivement cette spéculation qui est de toute façon délétère d'une manière ou d'une autre. À l'instar justement de l'avenue de la LGV, qui est quand même une très belle nouvelle pour la métropole, est-ce que vous observez des mouvements justement qui fait que forcément l'appétence devient de plus en plus élevée des opérateurs justement avec l'avenue du TGV, de la LGV. Je vous dis ça pourquoi ? Parce que je fais un peu une comparaison, sans faire d'analogie, avec ce qui s'est passé à Bordeaux, où on a vu en fait une envolée absolument irrationnelle des prix. Est-ce que aujourd'hui vous êtes prêt pour affronter cette réalité ? Et si oui, comment vous l'appréhendez ?
Aujourd'hui, la courbe des prix est plutôt stable. Aujourd'hui, on n'a pas de sur les prix de sortie. On a aujourd'hui des prix qui sont maîtrisés. On ne constate pas d'envolée anormale. On a suivi à Toulouse une évolution, et c'est heureux, une évolution des prix qui est un peu conforme finalement à l'augmentation nationale. Et aujourd'hui, dans le ranking qui est opéré, Toulouse reste une ville globalement très accessible. C'est ce qui en fait aussi son attractivité, puisque on voit que le pouvoir d'achat des ménages donne un peu plus de surface et un peu plus de soleil quand on vient à Toulouse.
C'est le... Merci Raphaël.
Justement, par d'attractivité, pour conclure cette intervention, on a beaucoup parlé du logement, mais c'est aussi l'attractivité pour les entreprises. Est-ce que vous pouvez justement nous en parler, hein ? C'est un pôle économique très important. Alors, et puis évoquer aussi le sujet un peu de la dépendance au secteur. On a parlé aéronautique, aérospatial. Est-ce qu'il y a des actions qui sont menées pour essayer justement de continuer à attirer des entreprises et peut-être diversifier l'activité de ces entreprises ?
Alors, le secteur aéronautique, aérospatial est un formidable atout pour la métropole. C'est 15% de ses emplois. Ça tire 20% de la demande immobilière tertiaire. Mais c'est surtout un catalyseur, finalement, qui tire l'ensemble de l'innovation. On a un capital aussi académique et de recherche important. C'est 130 000 étudiants à Toulouse, c'est 10 000 enseignants-chercheurs. Ce potentiel, finalement, il est à disposition de l'ensemble du tissu industriel. Et plusieurs pôles ont été développés par la métropole dans sa politique de campus qui permet de thématiser les implantations, de rendre lisibles un certain nombre d'actions. Je pense par exemple sur le secteur Grand Matabio, donc l'implantation du campus lié au numérique, à Toulouse Aerospace, donc tout ce qui est lié à l'aéronautique, l'espace et les systèmes embarqués, donc qui se développe sur ce campus avec l'Institut de recherche et de technologie qui est implanté là-bas, et on accueille d'écoles qui viennent s'implanter dans ce secteur. À l'Oncopole, donc tout le travail sur le pôle de l'économie et la santé du futur. Et puis enfin, un peu plus loin, la transformation d'une partie de l'aéroport de Francazals destiné aux mobilités du futur, aux mobilités décarbonées. Donc vous voyez qu'il y a tout ce travail de diversification qui fait qu'on tire des fils derrière la croissance très soutenue, garantie pour au moins une dizaine d'années, puisque c'est bien de cette ampleur qu'a le carnet de commandes aujourd'hui de l'entreprise Airbus. Donc on inscrit dans le temps long et on sème des graines pour développer des secteurs d'activité relais. Ça fait partie de la politique de développement de la métropole.
Merci beaucoup à vous, Raphaël Cattonnet. Applaudissements pour Raphaël Cattonnet. Merci beaucoup. très heureux de vous recevoir. Sébastien Maty, bonjour. Vous êtes le président de GA Smart Building. Alors justement, Sébastien Maty, votre entreprise GA Smart Building est très investie dans le bas carbone. C'est un peu votre marque de fabrique. C'est assez astucieux parce que vous portez une stratégie extrêmement intéressante. Et d'ailleurs, vous êtes orienté sur le logement dans une période, on pourrait très contracyclique, hein. C'est un courage stratégique. Moi, je trouve ça assez ingénieux et finalement assez opportun. Expliquez-nous, puisque on voudrait démystifier finalement ou casser les clichés du hors-site dont on parle beaucoup. Hein. Est-ce qu'on gagne du temps? Est-ce qu'on livre plus vite? Est-ce qu'on réduit réellement les nuisances sonores? Est-ce qu'il y a une meilleure acceptation des riverains, des habitants? Parce que ça, c'est un vrai sujet dans les actes de concertation. Et surtout, la question qui tue, c'est est-ce que ça coûte moins cher ou plus cher? On vous écoute.
Ok. On peut peut-être redire rapidement ce que c'est que le hors-site, hein, à quoi ça consiste. Assez simplement, bon, c'est de fabriquer les immeubles en usine plutôt que de les fabriquer directement sur le site. Trois grandes étapes. Une conception où on va mobiliser beaucoup de moyens pour faire une conception très détaillée. Et là, on va utiliser les leviers du numérique. Donc aujourd'hui, l'accélération sur le numérique, le BIM, l'intelligence artificielle, accélère le mouvement. Donc c'est la première phase la plus importante. Ensuite, on va fabriquer le maximum de choses en usine. Donc on va s'appuyer sur un réseau de fabricants industriels qui ont leur savoir-faire, leurs solutions. Et ensuite, on va transporter tout ça sur le chantier et l'assembler de manière la plus précise et la plus rapide possible. Et donc, on va s'appuyer sur une main-d'œuvre qualifiée. On va, du coup, forcément, dans la mesure où on a déporté beaucoup d'opérations en usine, avoir un délai sur chantier qui est beaucoup plus court. En termes de réduction de délai, on se parle de 30 à 50% par rapport à une opération construite traditionnelle.
C'est énorme.
Ouais, ça va beaucoup plus vite, puisqu'on fait
diviser par deux les délais.
On peut notamment quand on s'appuie sur une technologie modulaire. Hein, donc,
et l'impact sur les riverains, il est ultra maîtrisé également.
Bah du coup, moins de nuisances, moins de bruit, moins de poussière, moins de transport également. On va diviser.
Et ça, vous le percevez quand vous concertez, quand il y a des travaux de concertation. Bah,
c'est mis en avant, ouais, effectivement, ouais. Et c'est bien compris par les élus ou les collectivités qui voient un levier pour rendre l'acte de construire plus acceptable, effectivement. On va aussi avoir un levier de performance sur le carbone, sur les déchets, puisqu'on va avoir une production bien plus maîtrisée en usine. On va pouvoir réduire la quantité de matière utilisée. On va pouvoir adopter plus facilement des innovations et notamment adopter plus facilement la logique de réemploi. Quand on est dans l'économie circulaire, on a besoin d'un point de passage. On va démonter des choses, on a besoin d'un point de passage pour stocker. Bon, bah, évidemment, une usine, c'est assez propice à ça.
Et ce sont vos propres usines?
Alors, en l'occurrence, le modèle qu'on a choisi, nous, et c'est depuis de nombreuses années, hein, c'est d'avoir un modèle intégré. Donc, on a notre propre patrimoine industriel qu'on a enrichi avec le temps. Et donc, c'est nos propres usines, nos propres équipes d'ingénierie qui vont s'appuyer, du coup, sur les solutions propres. Mais pas que. On va aussi s'appuyer sur des fournisseurs externes et inciter finalement les entreprises avec lesquelles on travaille à adopter progressivement ce modèle de hors-site.
Vous avez la recherche et développement, c'est qui est au final dans le monde de l'immobilier assez peu poussé. Vous justement, c'est un budget qui est important au sein de votre entreprise.
Effectivement, la technologie, et je répondrai à la question sur le prix après, hein, sur est-ce que ça coûte moins cher ou plus cher, la technologie est centrale effectivement dans la logique d'industrie, puisqu'on va adopter des solutions technologiques, on va basculer d'une logique de projet à une logique de produit unitaire. Et donc, effectivement, nous, on choisit d'investir. Je voudrais rappeler quand même que dans le secteur, on n'est pas du tout exemplaire d'un point de vue innovation et R&D. Si on regarde sur les 31 grands secteurs.
C'est le moins qu'on puisse dire.
Le bâtiment, donc, c'est le dernier secteur
à investir
en termes de R&D et d'innovation.
C'est le gros enjeu lié à la crise que traverse aujourd'hui la profession.
Probablement, c'est pas le seul, mais en tout cas, c'est un enjeu important. Hein. Pour mémoire, la pharma, c'est 14% de son chiffre d'affaires annuel qui est investi en R&D. L'automobile, c'est 11%. Le bâtiment, c'est moins de 0,5%. Donc on est très très loin en termes d'innovation. Et donc en ce qui nous concerne, effectivement, on s'astreint à investir, on est bien accompagné. Hein, on investit à peu près 3 millions d'euros chaque année sur le développement de nouveaux produits, de nouvelles technologies. On est accompagné dans le cadre des plans France 2030, plans d'investissement d'avenir par l'ADEME, etc. Donc effectivement, c'est un des leviers de notre stratégie. Ouais.
Alors vous l'avez rappelé, vous êtes sur plusieurs classes d'actifs, bien évidemment. Vous avez investi le logement avec succès. On le voit bien que c'est au service d'une stratégie extrêmement bien pensée. Justement, l'enjeu, et d'ailleurs on le voit avec les précédents gouvernements, c'est d'essayer d'aller dans cette idée du logement abordable, du logement accessible. Est-ce qu'on y est ou pas? Est-ce que le compte y est? avec ces nouvelles technos.
Sur la question du coût, effectivement, et de l'impact, il y a un levier de performance qu'on a envie de saisir avec la construction hors site. En gros, les études de chrono-analyse font que sur un chantier traditionnel, un ouvrier passe à peu près 35% seulement de son temps à réaliser l'ouvrage pour lequel il est présent, il est là. Donc il y a quand même un levier à saisir très important.
Un levier qui réduit irréversiblement les coûts.
Alors, c'est ce dont on veut saisir. Oui. Aujourd'hui, concrètement, il faut bien concevoir un ouvrage pour pouvoir être compétitif avec des modes constructifs traditionnels. Et on va parler d'industrialisation plus que de préfabrication. Préfabrication, c'est fabriquer un produit unique. Industrialisation, on va être dans de la série. Donc, si on arrive à créer de la série dans une opération, soit parce que on va répéter des objets d'un projet sur l'autre, soit parce que le projet est de grande taille et on va pouvoir avoir de la répétition à l'intérieur de ce projet, là, on devient extrêmement
compétitif.
Quand
vous dites industrialiser, que je comprenne bien, c'est l'ensemble de la filière. Si on massifie l'industrialisation,
alors, c'est
inévitablement,
l'idéal.
On arrivera à aborder cette question qui est un impératif politique. C'est même presque parfois un peu les marronniers, d'arriver à ce fameux logement abordable qui n'oblige pas les Français à aller à plus de 2 heures de transport pour retrouver un logement décent.
C'est clair. Alors, il y a plein de leviers. Hein. On parlait tout à l'heure du foncier, qui est un poste important. Mais dans l'acte de construire, effectivement, il y a des leviers importants de productivité. L'industrialisation permet de les capter. Alors, à l'échelle de la filière, c'est l'idéal. Nous, on le pratique à l'échelle de nos opérations. Et on a proposé même de l'étendre. On est ici sur le territoire de Toulouse et on est très heureux que vous soyez là. On a proposé, dans le cadre d'une consultation qui a mené précisément au PIDEA sur le territoire, la dernière tranche du quartier de la Cartoucherie qui se développe dans le centre de Toulouse. C'était le plus important appel d'offres de la foncier il y a maintenant 2 ans, je pense. Et OPIDEA a souhaité que des promoteurs se groupent pour répondre à cette consultation. On a proposé de constituer ou de participer à une équipe avec 4 promoteurs et de faire de ce quartier le premier quartier hors site de France, en proposant que l'ensemble des 600 logements qui sont réalisés par l'ensemble des promoteurs, et je voudrais saluer nos partenaires que sont Nexity, Marignan, Crédit Agricole, l'immobilier et Premium Promotion, tous ensemble, on a proposé à la collectivité de réaliser le premier quartier hors site de France en s'appuyant sur des solutions mutualisées. Et bien, ça a convaincu, on a remporté cette consultation et on espère démarrer la construction dans quelques mois.
Aurélien Deleu.
Alors, vous parliez de réindustrialisation, c'est vrai que c'est un enjeu majeur en France, hein, la réindustrialisation. Alors, on est particulièrement fiers, on sait que GA y travaille, de vous avoir accompagné sur une opération emblématique, nous, pour le groupe Arkéa, hein, puisqu'on est une banque bretonne avant tout. Hein, l'opération à Vitré que vous avez menée, alors elle est full Arkéa, puisqu'on vous a accompagné en financement. L'investisseur est également le groupe Arkéa avec Arkéa Reim. Et surtout, ce qui était important dans cette opération, c'est que ça a permis de faire revenir dans une ville moyenne bretonne un nombre important d'emplois avec l'entreprise Idemia. Donc, bravo pour cette belle opération. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus et puis revenir sur ce territoire métropolitain ici à Toulouse et nous dire qu'est-ce que vous faites sur la partie développement économique et quelles sont les opérations importantes du moment?
Ouais, cette opération Idemia à Vitré, là, à côté de Rennes, là, c'est effectivement une très belle opération industrielle. Idemia, c'est un champion mondial de la fabrication et des cartes à puces, hein, et des cartes bancaires, qui était présent sur le territoire depuis 30 ans et qui avait besoin d'un nouveau site et notamment d'étendre ses capacités de production. Ils ont lancé une consultation pour des promoteurs et des constructeurs pour un nouveau site. Et on a répondu effectivement en proposant de construire de manière vertueuse et rapidement. Donc c'est un ensemble qui fait 5000 m² de locaux industriels et 2500 m² de bureaux. Il y a environ 500 personnes qui vont travailler sur le site. Et effectivement, on est venu avec un package qui a bien plu, et notamment avec Arkéa Reim qui était à nos côtés et qui s'est proposé d'investir et de porter l'investissement, Idemia étant locataire de l'ensemble. On a fait une très belle opération. La rapidité a compté aussi.
Hein.
On a
livré en combien de temps ?
14 mois.
14 mois ?
14 mois, clé en main, ils rentraient à l'intérieur, ils sont très contents. Donc c'est une opération assez emblématique en termes d'implantation de locaux industriels. Alors ce qu'on fait sur le territoire, il y a plusieurs typologies d'opérations. Hein. On est évidemment un acteur du bureau ici et on est présent notamment sur le développement de locaux en périphérie. Hein. Le marché de Toulouse, il est comme dans de nombreux métropole, il s'organise à la fois en périphérie et puis avec la création d'un centre urbain où les locaux sont un peu plus rares en termes de bureaux. Et donc, on développe des opérations dans le cadre de notamment de campus. On a des opérations, on implante par exemple Enedis à Balma sur notre campus de Biparc. On implante un acteur local qui s'appelle In Situ, qui fait de bureaux opérés de l'autre côté de Toulouse sur le quartier de Saint-Martin-du-Touche. Donc ces opérations d'environ 5000 m². On a une très belle opération en développement sur le quartier de Toulouse Aerospace, où on a décidé d'implanter notre siège social et d'en faire le premier acte d'un développement d'un campus tertiaire d'environ 30 000 m². Voilà, donc des opérations de périphérie sur lesquelles on propose des immeubles plutôt premium. Hein, c'est notre périmètre, notre territoire, notre champ de développement. Des opérations dans le centre, dans le centre-ville, avec notamment de la rénovation. On s'est porté acquéreur d'un immeuble au boulevard Marquette, près du quartier de Compense Caffarelli, qui va développer 5000 m². On vient de déposer le permis de construire, donc c'est vraiment de la rénovation.
Vous allez régénérer, vous faites de la régénération urbaine.
Ouais. Opérations de logement.
La régénération, est-ce qu'on peut utiliser le hors-site sur des opérations de rénovation?
Bah oui, je dirais même que c'est l'endroit où on a le plus besoin de transformer la manière de construire. Hein.
Oui.
On veut des choses qui soient rapides, sans nuisance, on a des voisins.
Ça
fonctionne. Alors c'est un mix finalement de traditionnel et de hors-site, mais comme les opérations neuves, hein, on ne fait pas tout en hors-site, on ne fait pas tout en usine.
Est-ce que ça inclut également la surélévation?
Bien sûr, et même que
dans la régénération,
c'est
voilà,
ce qui
y a
fonctionne
un peu,
très très bien.
C'est un peu le fourre-tout, et effectivement la surélévation, c'est un enjeu important. Raphaël Cattonnet tout à l'heure nous l'a dit, l'enjeu avec le PLUIH, c'est justement la verticalité. Pas facile la verticalité de la hauteur quand on est dans des villes qui historiquement sont sur du R+2 ou R+3, et là du coup c'est un changement de paradigme. Je voudrais, pour conclure, on a relevé avec Aurélien des éléments extrêmement intéressants dans votre philosophie, dans l'ADN citoyenne, si je peux dire les choses comme ça, du groupe GA Smart Building. Peut-être que c'est lié à votre gouvernance, peut-être que c'est lié à la configuration de votre actionnariat, que ça vous pousse, puisque vous assumez complètement le rôle citoyen de votre groupe. Et vous allez assez loin, d'ailleurs, puisque vous êtes devenu entreprise à mission. Pardon.
Pas encore entreprise à mission.
Pardon, merci de m'avoir rectifié justement là-dessus. Arkéa est devenu entreprise à mission, mais vous avez poussé effectivement une politique ESG, donc vous allez nous expliquer, très poussée, justement. Pour illustrer un peu le propos que vous développez et à la fois cette ADN très citoyenne que vous avez, par à la fois vos implications, parce que je le rappelle, je vous ai vu travailler à la Fondation Palladio également, où vous étiez très impliqué, aussi avec les élus locaux, avec qui vous nouez des relations extrêmement intéressantes, mais à l'intérieur, avec vos propres collaborateurs, expliquez-nous pourquoi vous le faites et quel est l'objectif justement dans cette trajectoire un peu mouvementée que vit la profession aujourd'hui.
Effectivement, on se définit comme entreprise engagée. C'est d'abord une décision du dirigeant, hein, qui a un impact, qui peut dire donner la direction dans laquelle l'entreprise s'engage. On a adopté une stratégie durable et responsable qui est notre stratégie. C'est pas de l'RSE ou de l'ESG qui serait à côté de ce que fait l'entreprise. C'est notre stratégie en 2018 qui s'appelle We Build for Life. Et donc, qui décrit qu'on a envie de développer une ville désirable dans laquelle on maîtrise nos impacts et on veut être une entreprise à impact positif. Donc ça se traduit de plein de manières. Effectivement, le champ de réflexion et d'action est très large. C'est effectivement lié à notre actionnariat, qui est un actionnariat majoritairement détenu par les salariés. Aujourd'hui, 60% du capital est détenu par environ 400 actionnaires individuels qui sont des salariés.
Ça ne va pas être simple pour prendre des décisions, non ?
Si, en fait, on n'est pas une SCOP. Il y a malgré tout une équipe dirigeante. Donc non, ce n'est pas plus compliqué. Et puis, on a à côté de nous des fonds d'investissement qui nous accompagnent et qui nous challengent également sur ces sujets de RSE. En réalité, ils ont pas.
Et ça vous permet de résister, beaucoup, justement, quand on a une configuration actionnariale très capillaire, hein, si on peut dire les choses comme ça. Est-ce que ça vous permet de résister aux tentations externes, justement, et parfois aux tentations que certains fonds d'investissement ont ouais. capter une partie de la production. C'est un vrai enjeu.
Ouais. Bah, c'est clair, c'est notamment une des raisons pour lesquelles on a adopté, hein, c'est de maîtriser notre trajectoire, maîtriser notre destinée capitalistique.
Inopérable.
Effectivement, on peut choisir finalement notre trajectoire.
Je rebondis juste, mon cher Sylvain. C'est que le management, les salariés sont à la gouvernance, en tout cas de l'entreprise, à l'actionnariat. Mmh. Et je voulais faire le parallèle avec Arkéa. Nous, on appartient à nos clients. C'est-à-dire que nos actionnaires sont les clients des différents crédits mutuels.
Ouais.
Et c'est vrai que ça change quand même la donne et ça nous permet d'avoir. On s'est engagé aussi sur l'entreprise à mission et puis d'avoir une vision très, très long terme, en tout cas, de notre stratégie.
En tout cas, ça vous donne une certaine liberté,
ouais.
puisque finalement, les produits qui sont générés par l'activité sont directement redistribués aux bénéficiaires, aux clients, aux salariés. Je trouve ça extrêmement intéressant. Ce n'est pas une vision capitaliste érodée, c'est plutôt une vision assez moderne.
Ouais, Sylvain, si je peux témoigner des bénéfices que ça apporte, en fait, certes, c'est plein de... Enfin, on veut bien faire, mais ça apporte quand même des bénéfices pour l'entreprise. Et on s'engage dans toutes ce qui est vécu par beaucoup comme des contraintes autour des évaluations de l'entreprise.
Mmh.
Je pense, par exemple, aux déclarations extra-financières, je pense à la CSRD, je pense à la taxonomie. C'est des sujets sur lesquels on essaye de devancer finalement les obligations, d'en faire des leviers de transformation pour notre entreprise, d'évolution, d'être très bon en la matière. Et du coup, naturellement, en fait, c'est pour nous la preuve qu'on est engagé. Et c'est un élément d'attractivité. Attractivité de nos collaborateurs, attractivité de nos clients, attractivité de nos partenaires qui savent que...
Donc ça veut dire que vous pratiquez l'inclusivité, justement, les personnes à mobilité réduite, des personnes qu'on juge... le terme n'est pas tout à fait approprié, mais parfois vulnérables. Mais c'est aussi la parité. Des sujets de parité qui sont aujourd'hui un des plus grands enjeux. Vous avez, on peut le dire sans détour, vous avez parlé de la construction comme étant le mauvais élève de l'innovation. Croyez-moi, la construction comme l'immobilier, c'est le mauvais élève de la parité également. Hein.
Des choses à faire.
Notamment au niveau des gouvernances, au niveau des modèles de gouvernance. Tout ça, ce sont des missions qui vous tiennent à cœur. Pourquoi vous dites, ça, c'est intéressant d'avoir votre point de vue, plutôt même personnel, vous dites voilà, que moi, président d'une entreprise comme celle-ci, je dois avoir aussi un impact, entre guillemets, politique au sens étymologique du mot. Participation dans la cité en tant qu'entreprise citoyenne.
C'est clair, hein, l'entreprise, elle a un rôle, j'ai pas envie de dire central, mais en tout cas très important dans la constitution de notre civilisation même. On a un rôle à jouer et moi, j'ai vécu avant, j'étais manager dans des grands groupes. Dans un grand groupe, avant de rejoindre GA, et effectivement, ça m'est apparu assez simple que c'est le dirigeant qui peut donner la réponse et impulser effectivement la dynamique dans l'entreprise, de sa raison d'être, à quoi ça sert, pourquoi on travaille. Est-ce qu'on travaille juste pour gagner de l'argent, pour que nos clients soient satisfaits? Non, la réponse est non. On travaille pour beaucoup d'autres choses.
Bien sûr.
Et donc, évidemment, c'est un débat qu'on a eu quand il y a eu le débat public sur la raison d'être des entreprises, porté par Nicole Nota, porté par Jean-Dominique Sénard. On y a répondu et aujourd'hui, c'est effectivement l'un des fils rouges de notre action. Et,
Sébastien Mathy, avant de nous quitter. On le voit bien, le métier souffre terriblement, il y a pratiquement 3 ans. On voit que l'avenir n'est pas hyper serein. Donc il n'y a pas 36 façons de voir. Il faut innover, il faut forcément s'adapter. Quel regard vous portez sur la politique du logement? Je voulais juste... Je regardais le magazine Challenge, je ne sais pas si on l'a. Vous pouvez le voir, les amis. Crise du logement, c'est ma consoeur Virginie Grolot qui a écrit le dossier. Crise du logement, un scandale français. On a beaucoup de Français à loger. Vous avez des impératifs également sur la métropole à Toulouse avec un flux démographique extrêmement positif, tant mieux. Mais il faut quand même les loger. Quel regard vous portez sur
Je porte un regard optimiste en voyant dans la crise l'occasion de rebondir, en fait. Et je pense qu'on est dans un secteur où il y a beaucoup de choses à faire, il y a beaucoup de choses à transformer. Et donc, c'est l'occasion. Alors, moi, j'aurais tendance à dire qu'on est en crise, ce n'est pas une surprise. On a trop de dysfonctionnements et on a un dispositif, globalement une filière qui a besoin de se transformer. Et c'est l'occasion de le faire. c'est l'occasion de réagir. Moi, je n'attends pas tout des politiques. Ce n'est pas les politiques qui vont, par la logique de la subvention, nous donner des solutions. Ce n'est pas une solution qui est durable. Donc, il y a, c'est à nous de nous prendre en main, à chacun, chaque entreprise, de trouver à la fois son chemin. C'est aussi une période de diversification. Les entreprises, elles doivent aller de l'avant et trouver des solutions. Ben, c'est notre rôle. Voilà.
Merci beaucoup, Sébastien Maty. Applaudissements pour Sébastien Maty.
Merci beaucoup. Merci à vous.
Je rappelle que vous êtes ils sont très dynamiques aujourd'hui. Voilà, président de GA Smart Building. Merci d'avoir participé à cette émission. D'ailleurs, on peut avoir toutes les informations sur votre groupe simplement en faisant une requête sur Internet. On va enchaîner, si vous voulez bien, avec notre troisième invité, aussi un grand monsieur de l'immobilier. Nous allons recevoir le président de LP Promotion, Pierre Aoun, dans quelques instants. À tout de suite. De retour sur le plateau pour notre troisième et dernière partie d'émission de Parlons Territoire. Nous, on inaugure le Tour de France avec mon ami Aurélien Deleu, qui est toujours avec moi. Ça va, Aurélien? Toujours aussi.
Toujours aussi bien.
Au taquet, Aurélien. Voilà. Un banquier qui est au taquet. Ça fait toujours plaisir à entendre. Merci, les amis. On est toujours ici accompagné d'un public extrêmement studieux et qui sait manifester sa joie. N'est-ce pas, public? Voilà. Ça fait plaisir. C'est ce que je dis à chaque fois, c'est très spontané comme réaction, comme quoi finalement ça nous fait vraiment plaisir. On est ici à Toulouse, dans une très très belle ville. Bonjour Pierre Aoun.
Bonjour.
Je suis ravi de vous retrouver.
C'est gentil, moi aussi.
Merci d'être avec nous.
En bonne compagnie, parce qu'on a des banquiers dynamiques.
Voilà, absolument, absolument. Vous êtes directeur général du groupe LP Promotion et vous êtes également vice-président de la Fédération des promoteurs immobiliers, la fameuse FPI. Pour l'Occitanie, merci d'être avec nous. Première question, c'est notre ami Aurélien qui va vous la poser.
Donc Pierre, avant de parler du marché, des chiffres, et notamment avec votre casquette de la FPI, que ce soit en région, mais également nationale, est-ce que vous pouvez nous présenter succinctement le groupe LP Promotion et puis ses activités?
Oui, un groupe que vous connaissez, Aurélien, je crois.
Très bien.
Groupe qui fait donc un peu moins de 300 millions d'euros de chiffre d'affaires. On est à peu près 300 collaborateurs. On travaille sur deux métiers, la promotion et l'exploitation. C'est ce qui nous différencie, je pense, de bon nombre de nos confrères. Donc, on a cette double casquette et on officie sur 9 agences réparties dans 5 territoires français, que sont Bretagne-Pays-la-Loire, Nouvelle-Aquitaine, Occitanie, Auvergne-Rhône-Alpes et l'Île-de-France. Voilà, et puis... On a parlé tout à l'heure, on est société à mission et on a donc cette volonté, nous aussi, d'avancer durablement vers des sujets que sont l'inclusivité et les publics fragiles que nous logeons dans nos résidences et puis évidemment le développement durable sur lequel on pourra échanger.
Je trouve ça extrêmement intéressant ce que vous dites, Pierre, parce que, à l'instar de ce que nous disait également Sébastien Maty, on a l'impression qu'on a une nouvelle génération d'entrepreneurs très impliqués dans la cité, très citoyens. Avoir pris des options, parce qu'il faut quand même la prendre, cette option de devenir entreprise à mission, de faire des choix aussi inclusifs en normes de RSE, en normes ESG, bien évidemment. Mais comme je disais tout à l'heure, on est dans un contexte de production qui n'est pas simple sur la production de logement. J'avais, il n'y a pas plus tard qu'une quinzaine de jours, la semaine dernière, samedi matin, dans mon émission Parlons Immo sur Sud Radio, interviewé Pascal Boulanger sur les chiffres. Ils sont catastrophiques. La publication au dernier semestre 2024 a été faite. C'est toute la filière qui est impactée. Votre point de vue, en tant que vice-président de la FPI, quand on voit l'état actuel très fortement dégradé du marché, je reprenais effectivement le journal Challenge de ma consoeur Virginie Grelot, quand elle dit que la crise du logement, c'est un scandale français, à cause, bien évidemment, par exemple, des orientations politiques qui auraient pu être un peu plus souples. Quel constat vous en tirez-vous, à la fois en tant que patron d'un promoteur, mais également en tant que vice-président de la FPI?
C'est une question qui n'est pas forcément facile. On ne peut pas répondre facilement à cette question. Il y a déjà un sujet, c'est qu'est-ce qu'on veut construire comme logement et quelle quantité? Déjà, pour construire le logement, il faut se fixer un objectif. Et l'objectif, ça fait longtemps qu'on n'en a pas entendu parler. Donc au niveau national, un objectif a été donné il y a 2 ans de 3 millions de logements en 10 ans, 300 000 logements par an. Donc c'est déjà un objectif assumé de décroissance. Bon, cette année, on est arrivé à 260 000 logements, donc c'est une décroissance accélérée. Une décroissance accélérée qui va continuer à s'accélérer, puisque les mises en vente sur l'Occitanie, mais aussi au niveau national, ont fortement chuté. L'Occitanie, je crois que c'est à peu près la moitié des mises en vente d'il y a 2 ans, et un quart de celle de 2017.
Exact, absolument.
Donc la conjoncture actuelle, elle ne va pas s'arrêter. La 2024 aura été une meilleure année que 2025.
Malgré la pression démographique. Hein.
Malgré
la pression démographique. Parce que je précise qu'il y a autant de gens à loger, de personnes à loger qui ont besoin de logement. Hein. Juste, voilà.
Oui, et puis sur tous les publics, puisqu'on dresse tout le parcours résidentiel des étudiants à nos aînés. Et puis on ne fait rien ni pour les uns ni pour les autres. On ne s'intéresse pas qu'aux 30-60 ans, on s'intéresse à toutes les classes de nos citoyens. Et que ce soit les aînés qui ont du mal à se loger à cette rentrée scolaire, que ce soit les jeunes, hein, mais nos aînés aussi, qui ont beaucoup de mal.
Les aînés qui perdent entre 25 et 35% de leurs revenus de remplacement, vous savez, avec la retraite, et qui n'ont plus les moyens, forcément, d'avoir accès ou de maintenir dans le logement, par exemple.
Et puis des fondamentaux démographiques, des aînés qui seront deux fois plus nombreux d'ici 2030, 6 millions de 75-85 ans. Avec des offres de services à domicile qui sont inexistantes, en tout cas très peu existantes, surtout dans les villes moyennes, si je puis dire. Comment on va faire pour loger nos aînés? Je crois qu'il y a beaucoup de questions qui se posent sur tout le parcours résidentiel. Et puis nos jeunes, vous prenez tous les articles de presse que vous venez d'entendre citer, il y en a eu 2-3 hier qui font état de jeunes qui dorment dans leur box, dans leur voiture.
17% en septembre 2024, pour illustrer votre propos, c'est votre président qui l'a annoncé également, 17% des étudiants ont renoncé à leurs études à la rentrée avec le Parcoursup parce qu'ils ne trouvaient pas de logement. Et vous avez raison, on a un peu moins de 20% des étudiants qui dorment dans leur voiture, faute de logement, qui vivent dans des campings, dans des logements de fortune. On le voit de plus en plus.
Ouais, et je ne comprends pas comment on ne peut pas réagir à un tel sujet. Donc alors, le LMNP qui permet aux investisseurs particuliers d'investir dans cette classe d'actifs et préserver pour l'étudiant et pour le senior, c'est bien. L'État a mis en place du LLI pour les institutionnels.
Logement intermédiaire.
De logement intermédiaire pour les institutionnels sur cette classe d'actifs. Faut-il encore que Action Logement, la CDC, veuille investir dans ce sujet-là? On voit que même si on les remercie fortement de leur capacité à avoir réagi pendant cette conjoncture, cette crise, en achetant en bloc des logements aux promoteurs, ils sont exempts de finances, comme tout le monde, et que le LLI demain, qu'il soit géré ou non géré, sera moins acheté par les institutionnels. Donc qui va loger nos concitoyens, quels qu'ils soient? C'est la question qu'on a le droit de se poser.
Alors, Pierre, justement, je rebondis là-dessus, hein, puisque bon, les chiffres ne sont pas bons. 2025 risque également d'être assez compliqué. On a la fin du dispositif Pinel là, qui est tombé. On a justement le fait que les bailleurs sociaux qui ont joué leur rôle contracyclique toussent un petit peu et ne pourront pas, en tout cas, augmenter les rachats en bloc aux promoteurs. Et on a les élections municipales qui arrivent l'année prochaine. Comment on sort de l'ornière?
Et les présidentielles l'année d'après. je crois que vous l'avez dit, à Toulouse, on est innovant. Donc, il faut innover. Il faut innover, il faut se diversifier. Depuis tout à l'heure, on a des intervenants qui se diversifient, qui innovent. C'est pareil pour nous. Il est essentiel de se diversifier. On a toujours cherché à ne pas être monoproduit chez LP Promotion, ce qui d'ailleurs nous a permis de ne pas avoir de stock dur. On a moins de 10 lots en stock dur à l'heure actuelle, puisque ça fait 2 ans qu'on a arrêté de vendre du Pinel. On s'est diversifié sur plein d'actifs, aussi bien le LMNP que la réhabilitation. On a lancé une marque sur ce sujet-là. On travaille en Deux-Normandie, on travaille en Malraux. Je travaille beaucoup sur l'accession, aussi bien dans les secteurs prime que dans les secteurs en TVA 5.5, ce qui permet aussi d'avoir un élargissement du champ géographique de nos capacités de production. Tous ces sujets-là font qu'on arrive à tirer notre épingle du jeu. Mais c'est vrai que, vous venez de le dire, au même moment, avoir la fin du Pinel et la fin, je ne sais pas si c'est la fin, mais en tout cas une volonté moins affirmée des institutionnels de nous suivre sur l'achat en bloc de logement, l'un plus l'autre, ça fait quand même beaucoup.
Là, il y avait forcément une limite, on ne pouvait pas. Moi, j'ai interviewé la présidente de CDC Habitat comme la directrice générale d'Action Logement groupe. Ils vous disent à un moment donné, voilà, on peut faire ce qu'on veut, mais à un moment donné, ça a forcément une limite. Sans compter que l'achat en bloc, c'est bien, mais ça s'achète également avec une décote. Donc c'est quand même, je veux dire que c'est pas forcément le pari important que souhaite faire le promoteur, bien évidemment. Mais on peut comprendre pourquoi. Tout à l'heure, c'est intéressant parce que justement dans la page 43 de l'article de Challenge, on parle, je repensais à ce que disait tout à l'heure Sébastien Mathilde, justement des enjeux de la construction en bois, des nouveaux modes constructifs, et que vous avez raison, il faudra bien à un moment donné se séparer ou ne plus rien attendre finalement de l'exécutif, en tout cas de celui-ci. Et d'attendre une vraie alternance politique. Ça, c'est, je referme la parenthèse. Comment vous voyez-vous l'évolution du métier de promoteur? Alors, si on prend les chiffres aujourd'hui, voilà, c'est 100 000 emplois détruits. quand on prend les chiffres qu'a communiqué vous, l'AFPI, et Olivier Salaron de l'AFFB, comment vous voyez ces relais? Est-ce que c'est l'exploitation? Est-ce que c'est d'aller, comme vous l'avez dit tout à l'heure, par exemple, sur de l'immobilier opéré? Quel est l'avenir, finalement, des métiers de promotion, indépendamment, finalement, du cycle qui vous frappe durement?
Non, mais je pense que c'est un océan d'opportunités. Chacun va devoir trouver son chemin, et chacun va devoir se diversifier, exploiter les compétences qu'il a en
vous,
interne.
Vous, par exemple, comment vous abordez? Comment vous le faites de LP Promotion?
On a des compétences en interne, donc on travaille en tant qu'AMO, c'est un sujet un petit peu sensible.
Assistant à la maîtrise d'ouvrage.
Oui, tout à fait. On travaille sur du CPI, en tout cas, on a des compétences internes, il faut les valoriser. Elles ne servent pas qu'à produire un type donné de logement.
Bien sûr.
Effectivement, vous parlez des sujets opérés, gérés. On peut parler de l'accession à la propriété. On peut s'intéresser, comme disait tout à l'heure Sébastien Matisse, sur la réduction des coûts de construction pour faire du logement plus efficace, plus durable et moins onéreux aussi, j'y pense et j'y crois, sur l'accession à la propriété. Il y a une multitude de choses. Et depuis qu'on est dans cette conjoncture, en tout cas en tant que chef d'entreprise, je prends des décisions quotidiennement sur des sujets auxquels je n'avais pas pensé jusqu'alors. Donc cette remise en question un petit peu obligatoire, elle nous permet d'être plus rentable, d'être plus exigeant et d'être plus conscient de la direction que l'on veut prendre, du chemin que l'on veut prendre. Et je pense, étant société à mission et ayant défini assez dans nos statuts, hein, puisqu'on les a changés, c'est le propre de la société à mission, ce qu'on voulait faire et ce qu'on voulait aller. Et ce qui est important, c'est d'avoir un cap, c'est d'avoir une envie, d'avoir une ambition, savoir où est-ce qu'on va. Et je pense qu'aujourd'hui, beaucoup de gens ne savent pas où ils vont. Il va falloir très sérieusement savoir où on va, sinon on risque de prendre le mur.
Donc pour vous, tout le bouleversement est propice au changement?
Pour moi, on en discutait là avec Aurélien, je suis hyper content d'être dans cette conjoncture. C'est difficile, mais ça permet de sortir.
Non, mais moi, je pense
ça fait 20 ans que je fais ce métier, c'est 20 ans qu'on fait la même chose, ça permet de sortir de ça.
Je pense à vos confrères qui souffrent le truc. C'est quand même 123 promoteurs qui ont mis un genou à terre juste sur l'année 2024, il faut quand même le dire. C'est plus de 2000 agences immobilières qui ont fermé. C'est pas simple. On a un marché de la location qui s'est rétréci de 49%. On a relevé les annonces. C'est une tannée aujourd'hui de se loger et de trouver sur le marché locatif privé, d'ailleurs même sur le locatif social. Et je vous parle pas effectivement des projets de construction qui sont pratiquement certains à l'arrêt. Aurélien Deleu.
Oui, alors justement, c'est ça, c'est comment on remet de l'offre. Alors la particularité aussi du groupe LP, hein, c'est d'être très très présent sur le logement des jeunes et le logement des aînés. On voit bien que le logement géré ces dernières années n'a pas été non plus très très simple à commercialiser, en tout cas de trouver le bon montage et le
bon produit, modèle économique. Oui,
le modèle économique.
Sûr, ouais.
Quelle est votre philosophie là-dessus et la stratégie du groupe sur
Mais on ne veut pas faire que ça, hein, déjà. Donc aujourd'hui, le logement géré chez nous, c'est un gros tiers, 40% de ce que l'on construit. Ça suffit, on ne fera pas plus. Il ne faut pas être monoproduit. Hein, mais il faut s'intéresser à ces deux classes d'actifs qui sont assises sur des fondamentaux importants. Hein, on vient de le citer sur l'étudiant et le senior et la démographie qui nous attend, surtout cette tranche 75-85 ans, qui ne peut pas rester à domicile et dont l'EHPAD n'est pas l'alpha et l'oméga du logement. Donc ces deux classes d'actifs doivent être maintenues. Donc l'État a jugé que le LMNP pour ces deux classes d'actifs est et doit être maintenu, voire renforcé. Le LLI pour ce type d'actif a été mis en place. Donc tout est fait pour que cela perdure et qu'on puisse répondre à ces publics fragiles. Et puis après, j'en parlais tout à l'heure, la diversification sur la réhabilitation. On construit la ville sur la ville. Donc on s'est attaqué à monter une nouvelle structure pour réhabiliter nos centres anciens qui ont besoin d'un coup de fraîcheur. Voilà, pour moi, il y a un très gros chantier sur ce sujet-là.
Les investisseurs reviennent sur le logement géré ?
Les investisseurs ont toujours été là sur le logement étudiant, plus complexe sur le logement senior, qui malheureusement a fait les affres de certains exploitants qui, pour petite histoire, hein, sur le logement senior, historiquement, on a un modèle économique qui s'intéresse au haut de la pyramide. On n'a jamais voulu s'intéresser, parce qu'un modèle promu par les institutionnels qui achetaient régulièrement en bloc ce type d'actifs a été un modèle où tout a été décliné de la même manière et qui s'intéressait à une classe d'actifs à plus de 2000 euros par mois, ce qui malheureusement ne convient absolument pas à la majorité de nos aînés. Donc on a pris le parti pris chez nous d'avoir là aussi d'être un petit peu innovant sur ce sujet-là, de manière assez difficile dans les premiers temps, hein, puisqu'on est arrivé avec un concept innovant, et c'est toujours compliqué de se faire accepter par le marché qui a toujours connu le même modèle, mais un modèle accessible. Hein, donc On est 30% moins cher que nos confrères. On a bien réfléchi au sujet. Ça fait depuis 2008 qu'on produit du logement géré et qu'on l'exploite. Ça fait donc une petite vingtaine d'années maintenant. Donc on a bien réfléchi au sujet. On s'est lancé corps et âme dans ce sujet-là, d'avoir des publics fragile avec des logements accessibles.
Comment vous réduisez les coûts ?
Alors, au lieu d'avoir 20 salariés, on en a 3 par résidence.
D'accord.
Si on va commencer par ça. Au lieu d'avoir une piscine que personne n'utilise, on n'en a pas. D'avoir un restaurant de mauvaise facture qui coûte cher et où, malheureusement, la moitié des gens ne vont pas, ben, on n'en a pas non plus. Voilà, on essaie de se recentrer sur les...
Avec ces leviers-là, qui sont finalement assez prosaïques, vous avez réussi à compresser
les coûts. On a réussi à compresser les coûts de 30%.
Sans dégrader la qualité d'accueil.
Au contraire, en améliorant la qualité d'accueil, parce qu'on se concentre sur la substantifique moelle qui fait ce pourquoi l'aîné est là.
Donc du coup, votre modèle a inspiré l'ensemble de vos confrères.
Non, ce n'est pas ce que je dis, mais en tout cas, l'État a mis en place du logement à loyer intermédiaire pour les publics fragiles que sont les jeunes et les aînés. Et force est de constater que quand on regarde le loyer qui découle de ce LLI géré, c'est exactement le même que celui que je pratique. Donc l'État, de par ses différentes études, en est venu au fait, il faut absolument qu'on trouve un modèle accessible pour loger le gros de la pyramide de nos aînés sur les années à venir. Et donc c'est ce modèle qui sera plébiscité.
Merci beaucoup, Pierre Aoun. Applaudissements pour Pierre Aoun. Restez avec nous. Voilà, il est temps de conclure cette émission, mon cher Aurélien. Merci Pierre Aoun. Je rappelle que vous êtes le directeur, le président de LP Promotion, directeur général du groupe LP Promotion, vice-président de la FPI Occitanie. Surtout, impliquez-vous politiquement au sein de la profession, puisqu'elle en a bien besoin. Et bien évidemment, la solidarité dans des moments où l'adversité est quand même compliquée, elle fait la différence. Et d'ailleurs, je salue l'action d'Arkéa Banque Institutionnelle, justement, à soutenir toute la filière. Je pense que c'est très rassurant de trouver des banques coopératives comme la vôtre, Aurélien, qui permet effectivement de soutenir. Il ne faut pas se leurrer, on est quand même sur un contexte qui est quand même assez difficile. Peut-être ne faut-il plus rien attendre des politiques. En tout cas, voilà, espérons qu'à l'heure où nous publierons l'émission, ce sera le 11 février à 13h, ce que nous enregistrons cette émission, peut-être que le budget sera voté ou que le gouvernement sera tomber. On va espérer que le gouvernement adoptera avec une relative majorité ce qui a été mis en place. Je rappelle un élargissement du PTZ, quelques mesures, même si on aurait pu espérer qu'elles soient plus importantes, notamment sur le statut du bailleur privé et l'amortissement sanctuarisé pour les personnes physiques comme pour les personnes morales. Peut-être le verra-t-on dans un deuxième temps. En tout cas, Valérie Létard, avec qui nous avons pris contact, nous a assuré qu'une commission a été désignée pour étudier le principe de l'amortissement, qui serait une bonne chose, finalement, sans que ça coûte trop cher, finalement, à l'État. Je voulais vous remercier, vous, Pierre Aoun, ainsi que l'ensemble des protagonistes de cette émission, Raphaël Catenet pour Opidea, Sébastien Matti pour GA Smart Building. Merci de ce que vous faites pour l'action professionnelle au quotidien et la proximité des territoires. Je voudrais vous féliciter et vous remercier à tous, public. Merci d'être venu, de vous être déplacé. C'est vraiment agréable également de participer à ce genre d'opération. On est très heureux de vous avoir reçu. Aurélien, la conclusion de cette émission, on a passé encore un excellent moment avec les professionnels.
Un très très bon moment. Et puis on a parlé plus que dans d'autres émissions du sujet de l'innovation. Je trouve que c'était assez riche. Et puis je pense que là, il est temps de conclure. Hein. Et puis de profiter tous ensemble d'un moment de convivialité à l'étage. Donc
bien sûr,
Êtes tous les bienvenus.
Et on va dire à toutes celles et ceux qui nous écoutent, Aurélien, que vous pouvez récupérer sur les podcasts et les médiathèques de l'application de Radio Immo. Bien évidemment, il suffit de t'appeler le nom d'Aurélien Deleu, le bien connu, pour récupérer l'émission Parlons Territoire. Vous pouvez bien sûr liker, partager, toujours avec beaucoup de bienveillance. On sera très heureux de vous retrouver dans une autre ville, dans un autre territoire, bien sûr au plus proche de vos réalités. D'ici là, prenez soin de vous et on se retrouve le mois prochain ou dans les semaines à venir sur les événements immobiliers. Merci à tous.